Voice of Indonesia.
Bonsoir tous les auditeurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour l'édition aujourd'hui, le 28 juin 2019. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes et nous commençons par le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « L'Indonésie espère que la Roumanie aidera à accélérer les négociations EU-CEPA ». L'ambassade de la République d'Indonésie a encouragé l'augmentation des visites de touristes indiens en Indonésie. L'Indonésie et la Corée du Sud renforcent leur coopération avec le secteur industriel prioritaire 4.0. IFC cible la distribution des fonds de 50,76 trillions rupiah pour l'Indonésie jusqu'en 2022. Triawan Munaf inaugure une exposition touristique. Bon, chers auditeurs, voici le journal complet. La Roumanie devrait contribuer à accélérer les négociations de l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et l'Union européenne, ou abrégé en EU-CEPA, qui entrera dans le 8e round. C'est ce qu'a affirmé le conseiller principal pour les affaires politiques, la loi et la sécurité du ministère indonésien des Affaires étrangères, Tengku Faizasyah, à Jakarta jeudi, à l'occasion de l'événement marquant la fin de la première rotation de la présidence de la Roumanie au Conseil de l'Union européenne. En outre, Tengku Faizasyah n'espère également que le 8e rang de négociation de l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et l'Union européenne qui aura lieu plus tard. Il y aura beaucoup de progrès et il n'y aura plus de rang.
And I count on Romania's support to expedite the conclusions of the ambitious.
Et j'ai demandé le soutien de la Roumanie pour accélérer les conclusions de l'accord de partenariat économique global ambitieux et réalisable entre l'Indonésie et l'Union européenne. J'ai le plaisir d'apprendre que de nombreux progrès ont été enregistrés dans les négociations EU-CEPA la semaine dernière à Jakarta et il y a le 8e rang de négociations. Espérons qu'au cours du prochain rang de négociation, nous pourrons réaliser davantage de progrès et que nous n'aurons pas besoin de négociations supplémentaires. Au cours de l'événement, l'ambassadrice de Roumanie en Indonésie, Valerika Epur, a remis le bâton de présidence du Conseil de l'Union européenne à l'ambassadeur de Finlande en Indonésie, Jari Sinkari, qui a marqué le début de la présidence finlandaise du Conseil de l'Union européenne. La Roumanie occupe les 6 premiers mois du Conseil des 3 présidents du Conseil de l'Union européenne, qui débute le 1er janvier 2019, suivi de la Finlande de juillet à décembre 2019 et de la Croatie de janvier à juin 2020. Les Indiens pourront bientôt profiter de vols directs entre l'Inde et l'Indonésie. Jusqu'à présent, les routes de vol des deux pays sont toujours dominées par des routes de vol à travers le pays tiers. En octobre, Air India, l'une des principales compagnies aériennes indiennes, commencera la liaison entre New Delhi, Chennai et Bali. L'ambassadeur de la République d'Indonésie en Inde, Siddhartha Reza Suryodipuro, a déclaré récemment à Voice of Indonesia que l'ambassade de la République d'Indonésie, New Delhi, et le ministère du Tourisme encouragent toujours la promotion touristique de l'Indonésie en Inde. Le gouvernement a également coopéré avec plusieurs agences de voyage pour introduire le potentiel touristique d'Indonésie dans la communauté indienne. En outre, selon l'ambassadeur Siddhartha Suryodipuro, l'aspect de la connectivité est également un facteur important afin d'améliorer la coopération dans le domaine de tourisme entre les deux pays.
Dan satu lagi terkait dengan konektivitas. Kami KBRI.
En ce qui concerne la connectivité, l'ambassade d'Indonésie au cours des deux dernières années a activement engagé diverses compagnies aériennes en Inde. Parce que la majorité des vols sont encore effectués par le troisième pays, la Malaisie, Singapour et Thaïlande. La compagnie indonésienne qui vole en Inde est Batik Air, de Medan à Chennai et de Denpasar à Chennai. De l'Inde, Air India s'envolera de New Delhi, Chennai, Bali en octobre. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire de l'ambassade de la République d'Indonésie, a également mené une analyse approfondie du comportement du tourisme indien. L'ambassadeur Siddhartha a déclaré que la pluralité de la société indienne peut être vue par la différence de caractère de voyage dans la communauté. La compréhension profonde du comportement du tourisme indien est l'un des facteurs importants dans l'effort d'augmenter le nombre de touristes indiens. Cette année, le gouvernement indonésien cible une visite de 800 000 touristes indiens en Indonésie. Le gouvernement indonésien renforcera la coopération bilatérale avec la Corée du Sud dans divers domaines, en particulier dans le secteur industriel prioritaire 4.0 qui vise à accroître le commerce et les investissements. Pour renforcer la synergie entre les deux pays, le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartarto, a rencontré le ministre du Commerce et de l'Industrie et l'Énergie de la Corée du Sud, Sung Yoon-mo. Erlangga Hartarto a dit jeudi à Jakarta que cette réunion pour Follow-up Leaders Meeting avait pour but de tenir une réunion de suivi des dirigeants qui faisait également suite au protocole d'accord signé en septembre 2017. Et la Corée du Sud a fait beaucoup de progrès dans le secteur économique. Quelques coopérations stratégiques qui ont été faites comprenant de groupes de travail conjoints chargés de promouvoir la coopération économique. La Société financière internationale, ou abrégée en IFC, qui fait partie du groupe de la Banque mondiale, cible la distribution de 50,76 trillions roupias au cours des trois prochaines années. Senior Country Officer d'IFC, Jack Siddick, a déclaré jeudi à Jakarta que cela avait été fait de 2019 à 2022. Pour ce faire, IFC investira environ 16,92 trillions roupies par an qui seront versés à plusieurs secteurs, notamment le secteur de finances et des infrastructures. Chacun recevra 40%, tandis que le reste est accordé au secteur manufacturier et de services. Selon lui, les infrastructures sont les plus difficiles en raison de la construction volumineuse et nécessitent beaucoup d'efforts de tous les partis pour finir un projet. Le chef de l'agence économique créative, Triawan Munaf, ouvre une exposition touristique intitulée l'exposition des destinations d'Indonésie 2019, qui se tenait du 27 au 29 juin 2019 à Cendrawasih Hall Jakarta Convention Center à Senayan, Jakarta. Dans son discours, il a salué la première tenue de l'exposition et a invité chaque région d'Indonésie à développer une économie créative par le tourisme. Il a déclaré que sa partie encourage l'enthousiasme et la vision des amis locaux pour promouvoir l'économie créative et le tourisme parce qu'il est devenu l'avenir de l'Indonésie. Tandis que le président de l'exposition de la destination indonésienne, Wiryanti Sukamdhani, a affirmé que l'exposition est participée par 120 participants venus de 60 régions du pays et des exposants d'outre-mer. Selon Wiryanti, fondée sur le principe de Trisakti lancé par Sukarno, à savoir la souveraineté politique, l'indépendance économique et la personnalité culturelle. Chers auditeurs, voilà les journaux aujourd'hui.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, après le journal, comme d'habitude, je vous présente maintenant le commentaire ayant pour le titre « La crise des dons pour la Palestine ». Mardi le 25 juin 2019, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les pays membres à soutenir le financement de l'Agence des Nations Unies pour l'assistance sociale et les travailleurs UNRWA qui s'occupent de la Palestine. Si l'agence ne reçoit pas d'aide, alors au moins l'éducation de 500 000 enfants, des visites de santé ambulatoires et une assistance à 1,5 million de personnes seront menacées. Guterres a rendu l'appel lors d'une conférence des États donateurs de l'UNRWA à Manama, au Bahreïn. Au moins, pour cette année, l'assistance sociale qui peut atteindre 1,2 milliard de dollars par an pour les réfugiés peut encore être satisfaite. Mais l'expérience de l'année précédente était assez compliquée. Les États-Unis, principal donateur de l'agence, ont réduit leur contribution de 300 millions de dollars à seulement 60 millions de dollars. Cette année, les États-Unis n'ont pas fourni d'aide à l'agence. L'envoyé spécial des États-Unis pour les affaires du Moyen-Orient lors de la session de l'ONU en mai dernier, Jason Blatt, a proposé la dissolution de l'UNRWA. La conférence des donateurs de l'UNRWA s'est tenue coïncidant avec une conférence de paix du Moyen-Orient. Les Palestiniens ne veulent pas assister à cet événement. Lors de la conférence, les États-Unis ont présenté une nouvelle proposition de paix entre l'Israël et la Palestine. La collecte de fonds d'investissement de 50 milliards de dollars pour la Palestine et les pays environnants a également été discutée lors de la réunion. Pour les États-Unis, cette proposition est une condition préalable vers la paix à deux États. La Palestine n'accepte pas cette proposition et considère que ce n'est pas une solution. Pour la Palestine, les solutions politiques et économiques doivent être réunies et non séparément. Néanmoins, certains pays arabes sont favorables à cette proposition, même si l'Égypte et la Jordanie n'ont pas encore fait connaître leur opinion. L'un des pays arabes qui l'a refusé est le Liban pour des raisons d'équilibre sectaire. Les États-Unis, en tant qu'initiateur, proposent des propositions économiques pour résoudre le problème des dons en faveur de la Palestine. Malheureusement, les États-Unis n'ont toujours pas clairement ouvert une proposition politique pour résoudre le problème palestinien et semblent même oublier la solution des deux États. Ainsi, jusqu'à quand les États-Unis vont-ils suspendre cette question? Serviteur, c'est un commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter l'histoire aujourd'hui. Le 28 juin 1914, Franz Ferdinand a été tué. L'assassinat du principal du trône de l'Empire Autriche-Hongrie s'est produit lors d'une fusillade le 28 juin 2014. La fusillade à Sarajevo a été perpétrée par un membre de Muang Noir, groupe nationaliste Sepp Gavrilo Princip, et à la suite de l'assassinat du prince, les Autrichiens déclarent la guerre à la Serbie, qui devenait plus tard le déclencheur de la Première Guerre mondiale. Le 28 juin 1919, l'accord de Versailles a été signé. L'accord de Versailles est un document de paix signé à la fin de la Première Guerre mondiale par les Alliés et l'Allemagne. La signature de ce document a eu lieu au château de Versailles, en France, le 28 juin 1919. Cet accord a été ratifié par la Ligue des Nations le 10 janvier 1920. Cet accord a été rédigé lors de la conférence de paix à Paris au printemps 1919, qui était dominée par les dirigeants de quatre pays, l'Angleterre, la France, les États-Unis et l'Italie. Ils veulent s'assurer que l'Allemagne ne lancera plus jamais une offensive militaire. Cet accord contient un certain nombre de dispositions garantissant la réalisation de ce objectif. Le 28 juin 1965, le journal Compass est apparu pour la première fois. L'idée initiale de la publication du journal Compass était contre la presse communiste. Compass était à l'origine un hebdomadaire de 8 pages, puis publié 4 fois par semaine. En 2 ans, le 28 juin 1965, Compass était devenu un quotidien national avec 30 650 exemplaires. Le nom Compass est un cadeau du président Sukarno qui signifie « boussole ». Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Voilà la chanson intitulée Hayalan ou en français Fantaisie, chantée par The Groove. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Chers auditeurs, la rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Chers amis de l'antenne, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie et pour le titre, la balance commerciale de l'Indonésie en mai 2019 affiche un excédent de 210 millions de dollars américains. L'Agence centrale de la statistique, ou BPS, a noté que la balance commerciale de l'Indonésie en mai 2019 affichait un excédent de 210 millions de dollars américains. Cette condition provient d'un excédent non pétrolier d'1,9 milliard de dollars américains. tandis que la balance commerciale du pétrole et du gaz connaît toujours un déficit, à savoir 977 millions de dollars américains. Le directeur de BPS, Suharyanto, à Jakarta, publié lundi par Antara, a déclaré que cette condition était un signal positif pour l'économie indonésienne. À l'avenir, il espère que la balance commerciale s'améliorera avec diverses politiques gouvernementales, surtout ceux déployés à travers les ministères et les institutions. La condition de la balance commerciale en mai 2009 s'est améliorée par rapport à l'année dernière. Sur la base des données de BPS, la balance commerciale de mai 2018 a enregistré un déficit pouvant atteindre 1,46 milliards de dollars américains. Par ailleurs, la balance commerciale accumulée de janvier à mai 2019 a encore enregistré un déficit de 2,14 milliards de dollars américains. Cela est dû au fait que le pétrole et le gaz enregistraient toujours un déficit jusqu'à 3,7 milliards de dollars américains. En fait, la balance commerciale non pétrolière et gazière a enregistré un excédent d'1,60 milliards de dollars. Si cela est spécifié, la cause du déficit de la balance commerciale du pétrole et du gaz est des produits du pétrole et du pétrole brut. Selon Suharyanto, avec ces conditions, l'Indonésie a encore des devoirs pour améliorer la balance commerciale. Le gouvernement doit essayer d'augmenter les exportations de différentes manières, notamment en réduisant les exportations basées sur les produits de base. Le gouvernement doit faire en aval, diversifier les marchés et les produits et offrir diverses incitations pour encourager les exportations. Suharyanto a ajouté que, d'un côté, presque toutes les parties ont convenu que les efforts déployés par le gouvernement pour contrôler les importations était la bonne solution. Cela concerne l'économie mondiale qui est toujours pleine d'incertitudes, de fluctuations des prix des produits de base et même de tendances à la baisse. Pendant ce temps, le ministre de la Coordination des Affaires économiques, Darmin Nasution, s'est félicité de la réalisation de l'excédent de la balance commerciale en mai 2019 qui avait été enregistré à 210 millions de dollars américains. Darmin Nasution à Jakarta lundi dernier a déclaré que l'excédent de la balance commerciale de cette période était soutenu par les résultats des exportations non pétrolières et gazières qui pourraient couvrir le déficit du secteur pétrolier et gazier. Serge Tor, c'était Mon Indonésie de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Pernahkah kau rasakan
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Nur Afni Octavia dont le titre est Sayang, qui signifie cher. Vous êtes toujours avec nous sur l'onde courte de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site de www.voynews.id. Chers auditeurs, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Maintenant, nous allons vous présenter un magazine culturel intitulé Orok Orok de Jepara. L'Indonésie est une nation riche en cuisine. Il existe différents types de nourriture répartis de Sabang jusqu'à Merauke et chaque région a ses propres caractéristiques. Jepara est l'un des endroits d'Indonésie propose plusieurs types de cuisine. L'un d'entre eux est orok-orok. Il est un aliment typique du Jepara qui est assez rare et difficile à trouver dans d'autres régions. Orok-orok est composé de farine de palme, façonné en petites granules. Il a un goût salé avec une texture dure et le processus de fabrication de orok-orok est assez compliqué et nécessite une longue période d'environ 2 heures, ce qui rend cet aliment de plus en plus rare et assez difficile à trouver. Vu la valeur nutritionnelle, le contenu calorique et glucidique, la farine de palme est équivalente au contenu nutritionnel du riz. Par conséquent, orok-orok est couramment utilisé pour remplacer du riz. La méthode de fabrication de orok-orok est assez compliquée. La farine de palme est d'abord lavée, puis séchée, et ensuite grillée. La farine de palme séchée est ensuite cuite à la vapeur. Après la cuisson, versée dans un bocal et puis mélangée à l'aide d'un peigne et la farine de sucre à la vapeur deviendra de petites grains. Orok-orok est unique parce que le processus d'agitation utilise un peigne. Pour ajouter de sa saveur, un peu de sel peut être ajouté et consommé sous forme de mélange d'autres aliments tels que boulettes de viande, gado-gado, saté kikil et les autres. Bien que orok-orok soit de plus en plus rare et difficile à trouver, il existe encore des gens sur le marché traditionnel à Jepara qui le vendent. Le prix de cet aliment est très abordable, seulement 2000 rupiah. La présentation de orok-orok est également traditionnelle, car elle est enveloppée dans des feuilles de teck. Au lieu de riz ou de gâteau de riz, orok-orok peut être mangé avec pecel ou saté kikil. Cet aliment peut également être consommé avec du lait de coco, comme par exemple de la glace cendol et de la glace teller, et pour rendre cette glace plus délicieuse. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
For Voice of Indonesia.
Bilakah engkau mengerti semua yang ada di hatiku ini? Ku hanya ingin dekatmu, namun kau selalu meniadakan aku.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Nous avons écouté la chanson de Naïf, intitulé Di mana aku di sini? Ou en français, où je suis ici? Je vous présente ensuite l'Indonésie en couleur sous les informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous revoir dans l'Indonésie en couleur. Nous vous présenterons aujourd'hui des informations sur les étudiants UGM créent des applications permettant d'évaluer le comportement du conducteur pour éviter les accidents de la route. Restez toujours avec nous sur www.voice.id. Chers auditeurs, les étudiants de l'Université de Gajah Mada, UGM, développent une application appelée The Boss pour évaluer le comportement du chauffeur afin d'éviter les accidents éventuels. Il est conçu en utilisant des accéléromètres et un GPS sur un téléphone intelligent. Cet outil a la capacité de mesurer l'accélération des forces et les changements de position qui se produisent. Andrian José Jayanto, l'un des développeurs de The Boss, a expliqué qu'avec cet outil, il était possible d'obtenir un indice du comportement du chauffeur avec des indications de perte de valeur telles que la conduite avec l'accélération agressive, les zigzags et les limitations de vitesse de conduite. De Boss soutient également l'utilisation efficace du carburant à travers des fonctions de calcul de conduite écologique. Grâce à l'intégration en temps réel avec l'administrateur, cette application peut être utilisée par des partenaires tels que les taxis-motos en ligne et les agents de police pour évaluer les performances des employés, les tests de permis de conduire et l'évaluation personnelle de l'utilisateur. Adrien a déclaré que le développement de cette application était motivé par des préoccupations concernant le nombre élevé d'accidents de la route dans le pays. Les données de l'Institute of Transportation Studies révèlent une tendance à la hausse du nombre d'accidents de la route dans le pays chaque année. Avec cette application, on espère pouvoir surveiller les téléphones portables des automobilistes et réduire le nombre d'accidents de la route dû à leur comportement négligé. Le développement de The Boss a été réalisé par Adrien avec ses compagnons de campus, Wisnu Kuryawan et Virginia Putri Mohi, sous la direction de Kafir Mansyah, grâce au programme de créativité des étudiants de l'UGM dans le domaine de Karsa Cipta 2019. Les étudiants méritent de recevoir des subventions de développement de la Direction générale de l'enseignement supérieur, du ministère de la Recherche, de la Technologie et de l'enseignement supérieur. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. À bientôt pour la prochaine édition.
Voice of Indonesia.
Aku bilang suka. Kau tersipu malu. Lalu aku bilang sayang. Wajahmu merah merona. Lalu harus bagaimana lagi darah? Cara untuk mendapatkan dirimu. Oh oh. Katakanlah saja bila benar-benar cinta, jangan kau ragu-ragu karena.
aku sungguh-sungguh. Kata-katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh. Bilang cinta, wajahmu tertunduk ragu. Lalu aku bilang sungguh, sungguh sayang. Lagi-lagi kau membisu. Lalu harus bagaimana lagi jarak, jarak untuk mendapatkan dirimu. Katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh yeah, yeah, oh. Oh 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 yeah. Oh 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 yeah, yeah, oh. Oh 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 yeah, yeah. Lalu harus bagaimana saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Kata-katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Kata-katakanlah saja. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama
Voice of Indonesia.
Makin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun berguguran, namun cintamu kasih terbitlah sana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwa. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya.
Voilà, selamanya cinta, ou en français, amour pour toujours, chanté par The Cinnamons. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Et pour ce soir, nous vous présentons la chanson de Sumatra du Sud.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Cette fois-ci, je vais vous donner une chanson intitulée Dek Sangke de la région de Sumatra du Sud. L'honnêteté est une nature humaine que tous les humains doivent respecter, en particulier pour la relation entre hommes et femmes. Voici le message de cette chanson. Bien qu'il ne sache pas quand la publication de cette chanson, qui est son créateur, la population de Sumatra du Sud ont déjà l'écoute depuis la sortie du disque. Les paroles uniques de Pantun de la société malaise contiennent d'importants messages de la vie. Cette chanson raconte aussi des conséquences si quelqu'un ne dit pas honnêtement. Avec l'arrangement de la musique pop malaise, voici Nunung Zahara et l'orchestre à Roland Pepe Shahrul Ge Bajumi, intitulé Dek Sangke. Bonne écoute!
Oh,
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'est tout l'émission quotidienne en français pour ce soir. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.